tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et cette parole, nous la trouvons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 12, la première partie du verset 12. Et nous la trouvons même par deux fois dans l'épître aux Corinthiens. Alors déjà, une petite précision, quand on dit aux Corinthiens, ça signifie aux chrétiens de l'église de Corinthe. Paul ne s'adresse pas à tous les habitants de la ville de Corinthe, pas plus qu'à tous les habitants d'Éphèse ou de Thessalonique dans d'autres lettres, mais à ces personnes qui se reconnaissent comme disciples de Jésus et membres de l'église dans ces villes-là. Ça peut paraître évident, mais je me suis rendu compte assez dernièrement que ce n'est pas toujours comme ça, et c'est assez important pour la suite de notre réflexion. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc la première fois que nous trouvons cette parole, on l'a dit, c'est au chapitre 6, au verset 12. Et le contexte dans lequel elle se situe, cette première citation, cette déclaration, est celui du désordre que Paul constate chez les chrétiens de Corinthe. Et principalement, l'immoralité sexuelle, ses formes. Et pour le coup, le contexte général de la vie de Corinthe était réputé pour ça. Mais aussi un esprit de division au sein de l'Église qui portait atteinte à son unité, une certaine culture d'école de pensée, et chacun se réclamant de tel ou tel maître, et enfin des litiges incessants entre chrétiens qui, plutôt que de les surmonter, ces litiges, en s'aimant les uns les autres, allaient jusqu'à se traîner les uns les autres devant des juges et, de surcroît, des juges non-croyants. Mais cette parole est suivie d'une deuxième qui lui fait écho. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Quand je parle d'écho, l'image qui me vient est vraiment celle de l'écho, tel qu'on peut l'expérimenter dans certaines circonstances, et en particulier en montagne. Vous émettez un son, un cri, un appel, peu importe, un chant, et le son vous revient, mais vous revient un peu transformé. Le contexte dans lequel vous l'émettez, la forme des parois, leur nature, etc., colore le son initial de ses propriétés. Et là, c'est bien la parole originale, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile », qui est colorée par l'écho, par le contexte, et avec cet écho de la parole « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominé par quoi que ce soit ». Et cet écho donne à la phrase initiale une couleur qui est la couleur du contexte, et contexte dont nous venons de parler, immoralité sexuelle, division, litige entre chrétiens, etc. Et au cœur de ce thème, nous trouvons la notion, bien sûr, de la liberté. Tout m'est permis, mais, car il y a un mais, tout n'est pas utile. Et plus précisément, c'est ça, l'écho introduit par le texte, « Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit ». Et vous admettrez qu'il y a un paradoxe, alors qu'il est question de liberté, de mon droit à exercer la liberté, l'écho revient en quelque sorte en boomerang me dire que certaines des choses que je revendique au nom de cette même liberté, au nom de ma liberté, pourraient bien exercer sur moi leur pouvoir, et que par un renversement de circonstances, je pourrais me trouver asservi sur le terrain même que je crois être celui de la liberté. Et l'addiction est l'aboutissement ultime de ce phénomène. On en parle suffisamment. Je suis libre jusqu'au moment où je ne suis plus libre de m'en passer. Mais sans aller jusque-là, jusqu'à l'addiction, la question de la liberté est ici posée, et pas seulement de manière générale, mais elle est alimentée par le contexte dans lequel vivent les Corinthiens. La liberté, l'actualité publique en fait ses choux gras régulièrement, et encore très récemment, liberté de conscience, liberté de blasphème, liberté de la vie privée. Comme chrétien, on pourrait très vite s'engager, peut-être s'égarer dans ce genre de combat. Et Paul ne pose pas du tout la question en ces termes. Ce qu'il importe, c'est que les chrétiens de Corinthe soit libre à l'égard du péché, et en particulier des péchés qui caractérisent leur contexte. Et la notion qui est véhiculée dans le mot péché, c'est rater la cible. Il se trouve que près de chez moi, il y a un champ de tir à l'arc, avec un club local d'archers qui est très dynamique. Régulièrement, je vois des membres de ce club venir s'entraîner sur ce terrain et organiser des compétitions régionales. Mais ce champ de tir n'est pas qu'un simple champ, juste une surface plate avec de l'herbe. Plusieurs cibles y sont alignées et de manière permanente. Elles sont alignées sur une même ligne, régulièrement espacées. Il doit y en avoir 4 ou 5, si je ne me trompe, espacées de quelques mètres. Et à l'autre bout du champ, à l'opposé, les archers se disposent et se répartissent les cibles et visent celle qui leur est octroyée. Je compare l'Église à un champ de tir à l'arc. Devenir chrétien, c'est entrer sur ce champ de tir équipé de son arc et de ses flèches et se faire attribuer une cible en ligne de mire. Et pécher, c'est donc tirer à côté de la cible, c'est rater la cible. Mais encore faut-il viser la cible. Qu'est-ce que ça signifierait d'entrer sur le champ de tir et de tirer à droite, à gauche, n'importe où, sans tenir compte de la position de la cible? Ou encore de disposer sa cible n'importe où, bon me semble, et de tirer par le travers par rapport aux autres, au risque de blesser quelqu'un ou de me blesser moi-même. Rater la cible en l'ayant visée est une chose. Ne pas viser, ou viser ailleurs que sur la cible en est une autre. Et il semblerait que c'est là ce que Paul reproche aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, que leur église ne ressemble pas assez à un champ de tir, que leurs cibles ne sont pas bien identifiées, qu'elles ne sont pas dignes d'un champ de tir, que chacun vise à côté des objets, d'autres objets que les cibles, des objets qui ne ressemblent en rien à des cibles, qu'ils négligent leurs cibles, qu'ils ne mettent pas tout leur cœur à viser juste. En résumé, qu'ils ratent leurs cibles en péchant par légèreté et par négligence, ce qui est tout de même, vous l'admettrez, plus grave que de pécher par maladresse. Et cette gravité, on l'aperçoit dans le ton de son propos, hein, tout au long de ces chapitres. Vous pourrez les relire du chapitre 5 au chapitre 10, hein, dans lequel se situent ces deux citations. On perçoit cette gravité dans le ton de ses propos, et en particulier quand il dit « Ne savez-vous pas que ceci, cela, ne savez-vous pas ?» Il le répète à plusieurs reprises sur les sujets qu'on a évoqués, donc les divisions, l'immoralité sexuelle, les contentions entre frères. Non pas qu'il doute que les chrétiens ne savent pas, parce qu'il s'adresse quand même à des croyants qui ne sont pas tout frais et clos, hein, mais qu'il sait bien, qu'il a bien constaté qu'ils font peu de cas de ces choses, de ces enseignements, et qu'ils les traitent avec une négligence déconcertante. Et bien souvent, les chrétiens sont perçus comme des personnes vivant dans une frustration permanente de ne pas pouvoir faire ce qu'ils aimeraient faire, dans la mortification de leur désir intime. Et là, j'ai un peu une image, hein, vous imaginez un groupe de jeunes qui vient de passer le bac, qui vient de réussir son bac, et puis qui, tout à coup, décide d'aller fêter ça ce soir de manière festive. Voilà. Et puis un chrétien au milieu d'eux, un jeune chrétien qui est sollicité pour cela. Et puis l'image qui peut parfois ressortir, c'est je ressors là de ma poche une liste. Ça je peux pas. Hein, c'est parfois un petit peu la façon dont on est perçu. Et d'ailleurs Pierre dit que tout le monde trouve étrange que les chrétiens se précipitent pas comme les autres dans les mêmes débordements de débauche et qu'on les calomnie pour ça. C'est ainsi, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ce n'est ni l'enseignement de Jésus, ni celui des apôtres qui vise au contraire à nous demander, aucun de ces enseignements ne vise à nous demander de nous priver de notre liberté. Mais voilà, le dilemme est là, avouons-le, la liberté de pécher, ce serait tout de même une drôle de liberté. Imaginez un champ de tir où l'entraîneur dirait que nous avons toute liberté de viser ailleurs que sur la cible. À quoi servirait un champ de tir dans ces conditions ? S'entraîner d'accord, mais à quoi ? À rater la cible ? Ce ne serait ni très cohérent, ni très motivant. Alors la clé se trouve peut-être dans un autre texte, toujours de Paul, mais dans l'Épître aux Galates, donc des chrétiens habitant la Galatie. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Il est donc question de liberté chrétienne. Paul demande aux Galates de ne pas s'en saisir de cette liberté chrétienne comme un prétexte pour suivre leurs désirs profonds. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que le désir profond des Galates, il est à l'opposé de l'échiquier par rapport au désir profond des Corinthiens, puisque eux veulent se placer sous la loi juive après avoir connu la grâce de Jésus. C'est vers ça, c'est la rigueur, une certaine dureté de la loi juive qui les attire. C'est vers ça que leur portent les désirs de leur cœur. Ne faites pas ça, malheureux, leur dit Paul. Pourquoi ? Vous placez sous le joug d'exigences que ni nous ni personne n'avons jamais été capables de satisfaire au cours des siècles durant. Paul reprend les Galates aussi fermement que les Corinthiens, mais dans un sens tout à fait opposé, pour contrer un excès vraiment opposé. Et donc, Paul n'est pas cet ascète forcené qu'on voudrait bien nous décrire et qui voudrait nous priver de notre liberté. Simplement, au bout de ces deux extrêmes, il y a l'esclavage. L'esclavage, d'un côté, celui de se laisser guider par les uns par des désirs de licence débridée, et les autres par une aspiration de rigueur, telle que peut-être aujourd'hui on peut en trouver dans les mouvements qu'on appelle intégristes. Mais les deux ne suivent finalement que l'inclination naturelle de son cœur et de ses désirs. Une sorte de remake moderne de l'opposition entre épicuriens et stoïciens qui a beaucoup alimenté la philosophie grecque. L'expression « désir de votre propre nature » est intéressante pour aller plus loin dans notre cheminement. Parce que si elle ne figure pas telle qu'elle dans le texte aux Corinthiens que je vous propose aujourd'hui, elle est quand même sous-jacente dans le texte. Car en fait, ce à quoi nous sommes appelés à travailler, ce n'est pas de renoncer à accomplir tous nos désirs, quels qu'ils soient, mais à changer nos désirs eux-mêmes, à les réorienter, à changer la source qui les inspire. Quelqu'un a prié ce matin en répétant ce verset « Attachez-vous aux choses d'en haut » ou à rechercher les choses d'en haut. Voilà, c'est dans le désir, ce à quoi nous aspirons qu'il faut travailler, plus que dans la renonciation elle-même. Et c'est vrai que quel sens cela aurait-il de s'inscrire au club de tir à l'arc et de ne même pas désirer viser la cible ? Si je m'inscris à ce club, c'est que déjà, mon cœur est non seulement de viser, mais aussi d'atteindre la cible en plein cœur. C'est vers cela que me portent mes désirs. Et c'est dans cela que je trouverai du plaisir. Je serai entièrement libre de donner libre cours à ce désir. Et même s'il m'arrive de rater la cible encore de temps en temps, je n'aurai pas à remettre en cause la légitimité de ce désir. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La deuxième fois que nous trouvons cette parole, c'est au chapitre 10 et au verset 23. Alors, vraiment, je vous engage à lire du chapitre 5 au chapitre 10, tout le contexte qui est vraiment intéressant pour introduire ces notions et voir dans quel contexte ces choses-là sont abordées. Et le contexte, cette fois, c'est celui de l'idolâtrie, dans cette deuxième citation. Dans tout le monde grec, et Corinthe ne faisait pas exception, une multitude de cultes à toutes sortes de divinités s'exerçait dans des temples dédiés à ces divinités. Et d'ailleurs, la prostitution sacrée s'y exerçait également ouvertement. Et dans ces temples, des animaux étaient sacrifiés aux divinités et leur viande était ensuite vendue pour être consommée. Et il semble que cette viande était vendue comme telle et n'était pas mélangée avec des viandes ordinaires. Elle était vendue avec sa qualité de viande sacrifiée aux idoles. Et il semble que les chrétiens de Corinthe faisaient preuve de la même légèreté vis-à-vis de cette pratique que vu précédemment pour d'autres choses, ne voyant pas de problème à faire cohabiter dans leur vie la pratique de ces sacrifices et la Sainte-Cène en Église. Paul leur demande sans détour de fuir l'idolâtrie. Il leur explique que les idoles ne sont en rien par elles-mêmes et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il leur explique que cette viande sacrifiée aux idoles ne diffère en rien d'une autre viande, mais que communier à ces sacrifices les mettrait en communion avec des démons, dit-il. Non pas que cette viande soit infestée de démons. Mangez-en sans vous poser de questions tant que vous ne la choisissez pas, elle, parce qu'elle est sacrifiée aux idoles. Parce qu'il n'y a qu'un sacrifice pour le chrétien, c'est celui de Jésus-Christ. Et il n'y a qu'une seule manière de communier au corps et au sang de Jésus, c'est la Sainte-Cène. Et enfin, il semble qu'il y ait localement toute une polémique entre croyants qui pensent qu'ils peuvent manger librement de cette viande et ceux qui sont outrés par la liberté que les premiers prennent à l'égard de ces choses. Et comme au chapitre 6, la déclaration « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile » est suivie d'un écho. Un écho que là aussi, le contexte colore. « Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » « Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Et il faut vraiment comprendre ce dernier mot, « tout n'édifie » dans le sens de la construction. Tout m'est permis, mais tout ne construit pas. Tout n'est pas construction. Et ça nous rappelle le début de cette lettre, au chapitre 3, quand Paul dit « Vous êtes la construction de Dieu, l'édifice de Dieu », et qu'il développe ensuite cette idée en mettant en garde contre une construction à la légère, anarchique, qui ne s'alignerait pas sur le modèle donné par Jésus-Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne construit pas. Quand nous replaçons cette déclaration dans son contexte, celui d'une idolâtrie généralisée, de l'amalgame que font les chrétiens de Corinthe entre sacrifice aux dieux païens et sacrifice de Jésus, confusion et dispute entre croyants sur toutes ces questions, on comprend que la préoccupation de Paul est d'introduire une notion collective et pas seulement individuelle dans tout ce débat sur la liberté. Pour prendre un parallèle avec l'actualité récente, l'affaire Mila en est un peu l'illustration. Oui, dans la loi française, le blasphème est permis. Notre société fait même du droit au blasphème un marqueur de notre liberté de conscience. Ah, c'est vrai que comme croyant, j'attendais un peu mieux. Et je suis attristé de voir le droit au blasphème érigé en valeur suprême. Mais bon, passons. Et ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens convaincus que nous allons dénier ce droit à ceux qui ne partagent pas notre foi. Mais enfin, que construit-on comme société quand on méprise, voire quand on vise délibérément la conscience de nos semblables? Où est l'utilité de ceci pour la communauté des citoyens, sinon à exacerber les passions et à provoquer l'affrontement des cultures? Et dans toute la suite du chapitre 10, et déjà au chapitre 8, vous pourrez les relire, Paul déploie un trésor d'explications sur ce thème de la conscience de l'autre. Et en particulier, quand l'autre est un croyant qui nous regarde avec une culture différente, une éducation différente et sa propre approche de la liberté chrétienne. Et ce frère qui ne se sent pas aussi libre que lui à l'égard de certains principes, il l'appelle de manière assez surprenante le frère faible. Le frère faible. Non pas faible dans son sens premier, c'est-à-dire cédant à toutes sortes de tentations, mais faible parce que n'ayant pas peut-être encore saisi la plénitude de la liberté à laquelle est appelé le chrétien. Faible peut-être encore parce que hésitant et prudent de crainte de tomber. Et de toute façon, cette attitude est infiniment préférable à celle qui consisterait à présumer de ses forces et à s'exposer inutilement. Peut-être le sujet est-il plus universel que nous le pensons, car Paul ne semble pas dire que ce frère soit faible à tous égards, mais seulement sur un point, et en l'occurrence, dans le cas présent, celui des viandes sacrifiées aux dieux païens. On est toujours le frère faible de quelqu'un, ou de la communauté, dans un domaine particulier. Et donc revenons à notre texte, où Paul dit ceci en substance, « J'ai ma propre liberté que j'exerce en toute bonne conscience devant le Seigneur. Je peux manger n'importe quelle viande sans me poser de questions. Mais je préfère encore limiter cette liberté dont je dispose pour un temps et dans certaines circonstances si elle heurte la conscience de mon frère ou de ma sœur faible en ces temps ou dans ces circonstances. » Et il prend un exemple. « Si donc on m'invite, je paraphrase, hein, si donc on m'invite en me servant, on me précise, cette viande a été sacrifiée à Zeus, alors je m'abstiens d'en manger. Non pas que Zeus habite dans cette viande et que je craigne pour moi-même, mais parce que je laisse penser à tous ceux qui sont autour que je communique sciemment et délibérément avec Zeus. » Peut-être enfin faut-il entendre l'expression « frère faible » dans un sens beaucoup plus large que le membre de ma seule communauté chrétienne. Est-ce que je vais ouvrir une bonne bouteille de vin quand je partage ma table avec un musulman? Est-ce que je vais proposer à un juif d'aller voir un match de l'ASM un soir de sabbat? Est-ce que je vais me mettre à parler fort et à rire fortement avec mes amis dans un bâtiment catholique comme je m'en sentirais la liberté ici même à la fin de ce culte? Le débat qui avait cours à Corinthe sur les viandes sacrifiées aux idoles est pour nous l'exemple d'un principe plus général. User de sa liberté de conscience personnelle sans outrager les limites de la liberté de l'autre ou de la communauté. Et ce principe s'applique dans une foule de domaines, et je suis sûr que j'ai la liste ici de tous les domaines dans lesquels on peut le placer, ça sera interminable. Est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool? Est-ce qu'un chrétien peut danser? Est-ce qu'il peut embrasser une cause extra-cultuelle? Est-ce qu'il peut participer à des rassemblements populaires? Que sais-je encore, hein. Mais n'oublions pas la préoccupation de Paul. Ce qui préoccupe fondamentalement Paul, c'est la construction. Grandir et faire grandir mon frère et la communauté en général dans la foi, dans la maturité et dans sa liberté. Il ne souhaite pas que les chrétiens demeurent indéfiniment freinés et asservis par des préjugés ou des principes qui n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Alors aussi, de l'autre côté, charge pour eux de s'avancer sur le chemin de la liberté. Il le dit au chapitre 7, « Si tu peux devenir libre, profites-en, plutôt que de rester esclave toute ta vie. » J'ajoute, mais voilà, « Si tu peux devenir libre, profites-en. Ne t'installe pas et ne te complais pas dans l'esclavage. » Vous connaissez l'expression judiciaire « abus de faiblesse » qui consiste à abuser de la faiblesse de quelqu'un d'autre. Je la retourne, je la renverse de son sens en disant « l'abus de faiblesse » qui consisterait à abuser de ma faiblesse pour limiter la liberté et celle des autres, qui qualifierait l'attitude de quelqu'un qui refuserait obstinément de s'ouvrir à un chemin de liberté, un chemin utile et pas seulement permis, un chemin de construction et pas seulement un chemin d'autorisation. Une attitude qui imposerait aux autres ses propres limites et prendrait leur liberté en otage. Beaucoup d'entre vous le savent, Chantal et moi sommes engagés dans la construction d'une maison. On a attendu pendant 3 mois un permis de construire qui tardait, qui était repoussé au moins une fois. Et puis maintenant, nous l'avons enfin et nous attendons d'un jour à l'autre le démarrage de la construction. Et la construction nous semble infiniment plus attrayante à suivre que la délivrance du permis de construire, qui en soi n'était pas une fin. Peut-être alors qu'il existe des collectionneurs de permis de construire, c'est possible, il existe des collectionneurs de tout, mais à part ça, je n'en vois pas bien l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est utile. Ce qui est passionnant, c'est la construction, quand elle s'élève progressivement vers le haut. Et bien sûr, on ne peut pas construire sans permis, mais le permis est aussi un droit pour tout citoyen qui contribue à la communauté et en accepte les contraintes. Bien. Il faut conclure. Dans la pratique, il n'est pas toujours simple de faire la part des choses. Nous savons que tôt ou tard, nous serons sollicités, sinon tentés, par des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu. Et à l'opposé, Jésus-Christ nous a ouvert la porte de tout un chemin de liberté. Liberté à l'égard du péché. Je désire ardemment ne plus être dominé par le péché. Pour cela, je réoriente mes désirs vers des choses qui plaisent à Dieu, qui me permettent de les accomplir en toute légitimité. Et deuxième terrain de liberté, liberté à l'égard de la loi. Plus aucune loi ne me condamne, et je réévalue mes principes et mes valeurs pour la vivre pleinement en me souciant de la croissance spirituelle de l'autre et de ma communauté. Des désirs contradictoires déchirent nos consciences, et la sérénité n'est pas toujours au rendez-vous à l'heure du choix. Cette tension a existé de tout temps pour les chrétiens, on le voit déjà dans cette question de la viande sacrifiée aux idoles, et pour l'Église en tant que communauté. Je crois qu'elle n'est pas prête de disparaître. La question n'est pas tant de trouver un juste milieu que de trouver un juste chemin, un chemin utile, un chemin de croissance, de construction. Pourquoi je vous propose maintenant d'incliner nos têtes et de prier afin que nous soyons guidés sur ce chemin. Seigneur, tu connais les désirs de mon cœur tels qu'ils sont aujourd'hui, même ceux dont je n'ai pas conscience. Merci de m'avoir inspiré ce que tu approuves et de me permettre de les vivre en toute légitimité. Aide-moi à les rendre utiles à mes frères, à les mettre au service de la croissance de la communauté de croyants. Utilise-les à construire des ponts pour ceux qui ne te connaissent pas. Pardonne les désirs de mon cœur qui vont dans un sens qui te déplaît et réoriente-les dans la bonne direction. Merci pour ta patience envers moi à leur sujet. Conduis-moi sur le chemin de la liberté et de la croissance que tu as prévue pour moi. Garde-moi en bonne conscience tant que je reste sur ce chemin. Décharge-moi de mes préjugés et aide-moi à dépasser les limites que tu n'aurais pas posées toi-même. Merci pour la patience et le respect de mes frères à leur sujet. Et Seigneur, accomplis en moi cette parole de ton serviteur Paul. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Amen.